Hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, deux fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello, hello, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laure Favre à mon micro. Laure est la cofondatrice de la marque Spring. C'est une marque de produits d'entretien qui est venue bousculer les codes de la production et de la distribution classique de lessive et autres produits d'entretien pour la maison. Ce que nous allons voir avec Laure dans cet épisode, c'est ce qu'elle a mis en place pour lancer une marque innovante dans un marché plutôt compétitif et qui existe depuis de nombreuses années. On y parlera de développement produit, de communication, de marketing, mais également de mindset. Laure a plusieurs anecdotes à partager à ce sujet et sans lesquelles la marque Spring ne serait pas là aujourd'hui. Donc un épisode encore riche en partage. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello Laure, et je suis ravie de te retrouver sur le podcast pour un nouvel épisode invité. Je sens que tu vas avoir pas mal de petites pépites à nous partager, donc j'espère que tu vas bien, que tu es en forme pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble.
Salut Marie, ben merci beaucoup de me recevoir.
Ouais, c'est cool. Bon alors, en intro du podcast, j'ai déjà présenté rapidement la marque que tu représentes, donc Spring, mais je te propose que tu te prêtes aussi à l'exercice et que tu nous dises qui tu es, ce que propose la marque, un petit peu quelle est l'histoire, d'où t'es venue l'idée et voilà quoi.
Avec plaisir. Donc moi, je suis Laure Favre, je suis la cofondatrice d'une marque qui s'appelle Spring, qui fait des lessives et des produits d'entretien qui sont vendus sous forme d'abonnement et donc en e-commerce. On est trois à avoir fondé la marque avec mes associés Philippe Cantet et Ben Guerville. Et on a lancé Spring il y a un peu plus de 3 ans maintenant, parce que c'était en août 2020. Donc ça, c'est pour le pitch très court. Et donc, pour mon histoire, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les produits d'entretien. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans cette industrie-là, et en particulier en marketing. Au bout de cette vingtaine d'années, j'ai eu envie d'apporter un changement. C'est la quarantaine, je pense, l'envie d'avoir un rôle positif. J'étais déjà dans une dynamique entrepreneuriale parce que j'avais bossé dans une grosse multinationale américaine, mais dans laquelle j'avais géré une marque qui était très intrapreneuriale. Et j'avais aussi lancé une autre entreprise en 2015. Qui s'appelle Soigna, et notamment avec la marque Maison Verte. Donc, j'avais déjà connu toute cette aventure entrepreneuriale. Et puis, à un moment, tu te dis, j'ai envie de faire plus, en fait. Plus, notamment parce que, comme je t'ai dit, ça fait plus de 20 ans que je travaillais sur cette industrie des produits d'entretien, que je travaillais depuis 2008 sur des marques écolo.
Génial.
Ouais, et donc en 2008, l'écologie, c'était pas vraiment la première préoccupation des Français. Hein. Franchement, c'était déjà assez précurseur, mais nous, on commençait à sentir qu'il y avait un truc à faire et que sur les produits d'entretien, on a évidemment un gros rôle à jouer sur le respect de l'environnement parce qu'on met en circulation des formules qui vont se retrouver dans les eaux usées, donc il y a un impact des produits sur l'environnement aquatique. Il y a aussi un impact sur les ressources naturelles, sur l'emballage, etc. Donc voilà, on sentait qu'il y avait un truc à faire. En 2020, nous on a travaillé sur le lancement 18 mois auparavant, donc entre 2018 et 2019, avec mes associés, en fait, on s'est retrouvés en disant mais en fait, faut aller plus loin parce que les marques dans le produit d'entretien font des choses plutôt pas mal sur ce qui concerne la formulation. Il y a plein de marques écolo qui sont très soucieuses du respect de l'environnement, mais on se disait que sur l'aspect santé, il y a aussi des choses à faire parce qu'on trouve des matières controversées dans les produits d'entretien, donc il s'agit de s'y atteler, quoi. Et dernière chose qui est sur l'aspect packaging, parce que là, pour le coup, c'est un océan de plastique. Tous les emballages des produits d'entretien, ou quasiment tous, sont faits en plastique, donc en plastique jetable. Ils sont en plastique parce que ce sont des produits qui sont faits à 80 ou 90% à partir d'eau. Un produit d'entretien, en fait, dès qu'il est liquide, c'est qu'il est fait en écrasante majorité à partir d'eau. Voilà. Donc on se retrouve en 2019 avec mes associés autour d'une table en se disant bah moi je viens avec mon expertise des produits d'entretien. Je dis bah en fait il y a un truc à faire quoi. On produit beaucoup trop de plastique en France. Il y a que un quart du plastique qui est réellement recyclé en France.
Hein. Oui, en plus.
Il y a un foyer français, il produit 30 kilos de déchets plastiques par an. Donc c'est quand même considérable en fait. Il y a un truc à faire sur la réduction des déchets et sur la nature du déchet qu'on produit. Parce qu'évidemment, on produit encore des déchets, mais il faut faire un déchet qui soit plus vertueux, d'une part. Et puis d'autre part, on se dit qu'il y a un truc sur la nature des matières premières qu'on utilise pour proposer des produits qui soient réellement sains. Là-dessus, on s'appuie sur une étude. Bah, d'ailleurs, en fait, c'est juste au moment du lancement, il n'y a que Choisir qui a lancé une étude qui montrait qu'il y avait presque un produit d'entretien sur deux, donc lessive, produit d'entretien, donc ton produit pour la vaisselle, pour les vitres, tout ce que tu utilises pour faire le ménage chez toi, près d'un produit d'entretien sur deux qui contient des matières dangereuses. Ça, c'est une étude de Que Choisir en 2020. Donc, on s'est dit, bah voilà, il y a un truc à faire autour d'une offre de produits d'entretien qui soit meilleur pour l'environnement parce que sans plastique à usage unique, et aussi meilleur pour la santé parce qu'ils sont donc sans matières controversées. Donc ça, c'est le cœur de notre offre sur la nature du produit, sans plastique à usage unique, sans matière controversée, et puis surtout qu'il soit aussi efficace et au même prix qu'un produit conventionnel. Il sent aussi bon qu'une lessive classique. Voilà. Donc faire la même chose qu'un produit conventionnel en mieux, en quelque sorte. Et puis mes associés, Philippe et Ben, alors ils viennent chacun aussi avec leur expertise, puisque Philippe a plus de 20 ans d'entrepreneuriat. Et Ben, pareil, la même expérience, mais lui sur le marketing digital.
Okay.
Et donc en fait, fort de nos discussions, on met chacun un peu notre expertise dans cette réflexion, et on se dit en fait, il y a peut-être un truc à faire, à proposer des produits d'entretien plus vertueux, meilleurs pour la santé, sans plastique, sans matière controversée, et digitaliser, c'est-à-dire sous une forme de business model qui puisse fonctionner en e-commerce. Ce qui nous a poussé à réinventer la forme de nos produits, parce qu'on propose donc un système d'abonnement, de livraison programmée. Et ce qu'on veut, c'est apporter un service complet à nos consommateurs. Donc l'abonnement, il a une grosse vertu, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'y penser. Et c'est toi qui vas définir la fréquence de livraison qui te convient selon ton foyer. Tu choisis ta référence de lessive. Ou de produits d'entretien de manière générale, puisqu'on propose une gamme sur à peu près tous les produits d'entretien. Et en fonction de ce que tu auras défini, nous, on va t'envoyer régulièrement les produits dans ta boîte aux lettres. Et comme on veut aller vraiment au bout de cette notion de service, on y pense pour toi. Donc, en fait, c'est un peu la levée de la charge mentale. Hein, tu n'as plus besoin de réfléchir à acheter des produits d'entretien. Mais en même temps, on veut que le produit, il arrive réellement dans ta boîte aux lettres. Parce que l'idée, c'est quand même que tu n'aies pas besoin d'aller le samedi matin à la poste récupérer ton colis. Donc, en fait, notre lessive, il faut imaginer. Ouais. Alors là je te montre en visio, Marie, la boîte.
Oui, tout à fait.
Alors, il faut imaginer que notre lessive, donc d'abord, elle vient sous forme de petites capsules hydrosolubles. Donc, ça, c'est les doses qu'on connaît. Certains appellent ça des pods, des capsules. Enfin, ces petites doses qu'on va jeter directement dans le tambour. On a choisi ce format parce qu'en fait, il est pré-dosé. Donc, en fait, ça dit au consommateur ce dont il a besoin. Et ça évite de trop doser donc de surconsommer. Cette petite capsule, elle est hyper concentrée. Elle rentre dans une boîte qui fait 2,5 cm d'épaisseur.
C'est ça.
Donc, en gros, c'est une grosse BD, en fait. La boîte, c'est une boîte A4 en carton, donc. Et elle fait 2 cm d'épaisseur. Donc, elle est designée pour rentrer dans la boîte aux lettres. Dans cette boîte, il y a 42 capsules. Donc, c'est l'équivalent d'un gros bidon de lessive, mais qui rentre dans la boîte aux lettres.
Et puis qui est mieux pour la santé et mieux pour l'écologie et mieux aussi pour le fait qu'on n'a pas besoin d'y penser parce qu'elle arrive chez soi sans qu'on ait besoin d'y penser. Ouais. Donc c'est génial.
C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Ce qu'on disait, c'est qu'il y avait un moment où quand on a lancé en 2020, il y avait plein de marchés qui avaient été déjà digitalisés, uberisés, disruptés. Tu choisis le terme qui te convient, mais en fait, il y avait plein de marchés qui avaient été vraiment bousculer, mais pas du tout les produits d'entretien, mais parce que la forme produit, naturellement, ne se prête pas à rentrer dans un colis postal, parce que souvent, si tu envoies ton bidon de lessive, en gros, les frais postaux vont te coûter plus cher que le bidon de lessive tout court.
Et oui, il y a aussi le coût des frais.
L'impact environnemental, parce qu'évidemment, d'un point de vue environnemental, c'est pas bon, sans surprise.
Non, c'est sûr. C'est incroyable. Mais alors, et ça, c'est... parce que donc, tu me disais que vous étiez... Donc, il y a aussi Ben et Philippe avec toi. Et tu me disais quand on préparait l'entretien que ça avait été important aussi pour la création de la marque, que justement vous soyez ensemble. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur justement sur cette synergie ?
Ben oui, parce que en fait, comme je t'ai dit, on vient chacun avec avec nos expertises en fait. Pour faire simple, moi j'aime bien dire qu'on fait une start-up donc digitale de produits d'entretien. Philippe, il a 25 ans d'entrepreneuriat. Ben, il a 20 ans de digital et moi j'ai 20 ans de produits d'entretien.
Oui.
C'est vrai qu'en fait, on a trois profils qui sont archi complémentaires, chacun sur un des piliers du business qu'on a monté. Alors évidemment, on l'a monté de cette manière-là parce qu'on était fort de ces expertises-là. Mais ça fait que on a trois profils hyper complémentaires. On est chacun expert de notre domaine. Et du coup, ça nous donne une association que moi je trouve hyper vertueuse parce que on respecte tout à fait l'expertise de l'autre. En revanche, on fait beaucoup de choses tous les trois. On discute de tous les sujets stratégiques à trois. Ça nous empêche pas d'avoir un avis, de donner notre feedback, de challenger les autres quand on pense que c'est pas forcément la meilleure option. En revanche, on reconnaît que l'expert c'est un tel ou un tel et que c'est lui qui aura le dernier mot. Donc ça donne des discussions vachement saines en fait parce que on prend l'input des autres pour ce qu'il a, c'est-à-dire toute la valeur de quelqu'un qui vient soit avec un avis contraire parce qu'il connaît le domaine mais il pense différemment, soit parfois c'est un avis plutôt de novice. C'est-à-dire, bah voilà, moi quand on a commencé à développer le site internet, moi je venais d'un marketing hyper traditionnel de grande conso sur les marques que tu peux rencontrer dans un supermarché. Donc autant dire que moi le e-commerce c'était à des années-lumière de mes compétences. Oui. Donc au début, quand Ben nous présentait le site, toute la tech et notre mode de la conception de notre e-commerce, bon bah mon avis n'avait de valeur que d'être un avis consultatif d'un utilisateur final aussi d'un site internet.
Ok, bien aussi. Et qui est utile.
Oui, non mais c'est ça. En fait, moi je trouve tous les feedbacks sont hyper intéressants parce que a contrario, tu vois, moi, quand je parle de développement produit, c'est mon expertise, je fais ça depuis 20 ans. Mais au bout d'un moment, bah, tu peux oublier, tu peux passer à côté de quelque chose. Et justement, la naïveté du débutant est vachement intéressante parce que souvent, ça te fait voir les choses différemment. Donc ça, je trouve que c'est l'équilibre qu'on a sur tous les trois. C'est que, on est, comme tu disais, donc chacun expert de notre domaine et on a beaucoup d'échanges de communication, Et c'est super riche parce qu'en fait, on vient se nourrir chacun des insights et de la connaissance de l'autre. Et en fait, c'est 1 plus 1, plus 1 égale pas 3, mais égale 4, 5, 6, ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on multiplie l'intelligence collective, en fait.
Ouais, carrément. Et est-ce que si tu avais été... Enfin, là, je pense par exemple à des personnes qui auraient peut-être envie de lancer une marque et qui peuvent peut-être avoir des craintes. Est-ce que le fait d'avoir été tous les trois, c'est quelque chose qui... Toi, est-ce que tu l'aurais lancé seul, en fait, si je veux le dire différemment?
Moi, c'est une super bonne question parce que... Alors, la réponse, c'est non. Je suis presque sûre que je l'aurais jamais fait seul. En fait, je trouve que c'est une super question parce que... Pour la petite histoire, je fais un petit retour en arrière, mais moi, j'ai toujours un peu fantasmé l'entrepreneuriat. Je trouvais que c'était des gens brillants, super smart, qui avaient eu des idées de génie... Et du coup, j'étais très impressionnée par les entrepreneurs. Mais moi, je fais pas partie des gens qui ont 1000 idées à la minute. Tu sais, t'as des gens comme ça, ils voient un truc, ils en font 12 idées de business différentes. Moi, je fais pas partie de ces gens. Et du coup, pour moi, un entrepreneur, c'était ça. C'était un méga créatif qui était, un géotrouve-tout, un mec brillant sur tous les domaines. Bon. Ce qui me freinait un peu à me dire, ben moi, j'adore l'entrepreneuriat parce que j'aime cette idée de mettre les mains dans le cambouis, de toucher à plein de sujets différents, d'avoir aussi des grosses difficultés parfois, de pas avoir le mode d'emploi. Il y a une grosse incertitude. Hein. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas non plus un long fleuve tranquille. Je l'avais vu donc chez Johnson et puis chez Soigneur, hein, puisque j'avais déjà eu ces approches-là. Mais chez Johnson, c'était de l'intrapreneuriat. Donc bon, je gérais ma marque toute seule, mais c'était une entreprise où il y avait 150 personnes en France. Donc certes, la marque était gérée de manière intrapreneuriale, enfin j'étais loin d'être toute seule. Et Soigna, on avait racheté des marques à un groupe, un gros groupe, et donc on est parti avec 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Certes, tu construis tout un business autour de ça, mais tu fais déjà 25 millions de chiffre d'affaires. Donc tu peux déjà avoir une équipe.
Bien sûr.
Quand tu fais l'entrepreneuriat tel qu'on le fait là avec Spring, c'est-à-dire la vraie start-up, tu pars de rien du tout. Quand on dit la feuille blanche, à part avoir trois bonnes volontés qui se réunissent dans les salons des uns des autres dans un café, franchement, on n'avait rien d'autre en fait.
En plus, vous étiez en phase Covid, excuse-moi, c'était pendant le Covid juste que avant. Vous avez... Ouais. Ah oui.
C'était donc, juste
chacun chez soi.
Et du coup, bon, du coup, c'est vrai que là, ça fait quand même appel à d'autres dimensions. Et moi, j'adorais cette idée-là, mais j'étais très consciente que j'avais pas 12 idées. Que moi, je trouve qu'on est plus intelligent à plusieurs. Moi, j'adore bosser en équipe, donc j'ai pas envie de bosser toute seule. Donc voilà, pour toutes ces raisons, déjà, je l'aurais jamais fait tout seul. Et puis en plus, bah voilà, parce que j'avais pas l'instinct, l'idée, le machin. Et donc, fort de maintenant, ces 3 ans de recul avec Spring, 3 ans de lancement, donc ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur la marque, en fait, je me rends compte que... Et puis, pour avoir rencontré plein d'entrepreneurs aussi depuis tout ce temps-là, je me rends compte que tu peux être un entrepreneur sans être géotrouve-tout et avoir 1000 idées. Tu vois, notre histoire à Ben et Philippe et moi, ça le démontre bien. Moi, j'avais pas d'idée de business. En revanche, j'avais des connaissances sur mes catégories de produits qui me faisait dire ce qu'on pouvait modifier et changer. Et puis, c'est à force de discuter tous les trois qu'on est arrivé à cette idée de business model. Mais, je pense que, être avec les bons associés, c'est capital, en fait, parce que d'autres peuvent avoir des idées que toi, tu n'as pas, ou collectivement, tu arrives à trouver ces idées. Et puis, ce dont je m'aperçois aussi avec le temps, c'est que, bien souvent, les business tels que tu les vois aujourd'hui et ceux qui te mettent des étoiles dans les yeux où tu te dis « Ouais, c'est dingue, ils sont trop forts », bien souvent, ces mêmes gens, ils sont passés par plusieurs échecs avant, ils ont pivoté et souvent, le produit que tu vois et qui t'impressionne, c'était pas du tout le produit de lancement, en fait. Et justement, pour moi, ça, c'est la force d'un entrepreneur, c'est de se dire « Ok, est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien? Est-ce que je suis capable d'analyser ce que j'ai fait et de me dire vite « Allez, là, c'était une erreur, je change de voie ». Parfois du tout au tout, parfois tu affines, mais voilà, ça c'est pour moi un learning hyper important, c'est que pour moi, j'aurais pas fait ce business seul parce que ça me ressemble pas, ça ne me correspond pas, et de manière générale, les entrepreneurs sont pas tous des génies et n'ont pas tous des idées extraordinaires, mais en revanche, ils parlent beaucoup, ils échangent beaucoup, ils se documentent, ils sont curieux, et ça fait naître des idées.
Ouais, tout à fait. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est un peu peut-être pour les personnes qui oseraient pas et qui savent pas, et je trouve très bien le parallèle de tu admires et tu te dis j'y arriverai pas, et ben regarde-toi, t'es là pour démontrer que tu pensais de pas pouvoir y arriver, tu les admirais aussi, puis tu t'es dit je vais y aller avec des personnes qui ont peut-être ce qui me manque, même si je reste persuadée qu'un entrepreneur peut réussir seul, même sans avoir 15 000 idées, il suffit d'avoir la bonne idée aussi. Par contre, de pouvoir pivoter et rechallenger à chaque fois l'agilité, comme on dit aujourd'hui, hein. C'est sûr que ça, c'est une qualité. On viendra justement à la fin de l'épisode sur les qualités d'un entrepreneur. Mais voilà, ça, c'est bien de se dire, je peux peut-être ouvrir le projet avec d'autres personnes. Alors après, il faut trouver les bonnes personnes. Toi, tu les connaissais déjà, ils étaient déjà dans ton réseau?
Ouais, là, c'était dans mon réseau, mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est que moi, c'était à un moment où je me posais des questions, je voulais ouvrir mes chakras à d'autres choses. Et justement, Philippe, comme je t'ai dit, il a 25 ans d'entrepreneuriat, donc je savais qu'il était très proche du milieu des startups et qu'il était très très investi dans ce domaine-là. Puis d'ailleurs, à l'époque, moi, je le connaissais depuis une dizaine d'années parce qu'il avait lancé une application de marketing mobile qui propose des coupons de réduction, qui s'appelle Shopmium. Et donc, c'était sa start-up précédente. Et moi, à l'époque, j'étais chez Johnson et j'ai été une de ses premières clientes. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Philippe. Et puis, Ben bossait aussi chez Shopmium. Donc, en fait, je les connaissais comme ça depuis un petit moment, mais comme des relations de ton réseau professionnel. On échangeait régulièrement. Et en fait, au moment où moi, je me posais un peu des questions sur ma vie, mon œuvre, je me dis, justement, j'ai pas toutes ces connaissances, ces startups, j'y connais rien, mais ça me plaît, ça m'intrigue en tout cas. Je vais rappeler Philippe pour qu'il m'en parle un peu et qu'il me mette sur la voie. Et en fait, c'est comme ça que Spring est né. Qu'en fait, à un moment, je me suis dit, OK, moi, j'ai pas mis l'idée. Et d'ailleurs, c'est un ami qui m'avait dit, t'es pas obligée d'avoir des idées pour faire un business. En revanche, il faut que tu sois curieuse, extérieure, et que tu ailles à des conférences, que tu contactes ton réseau, etc. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, il a débloqué un énorme frein que j'avais. Je me suis dit, c'est fou, en fait. Bien sûr, t'es pas obligée d'être directement parfait entrepreneur. Et c'est lui qui, et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, t'es pas obligé d'avoir l'idée comme ça. Peut-être que l'idée, elle va émerger parce que je vais aller à des conférences ou je vais parler avec des gens. Et donc, fort de son commentaire, je me suis dit, ouais, c'est vachement intéressant. Et c'est comme ça que, notamment, que j'avais recontacté Philippe. Disant, bah, tiens, raconte-moi un peu les startups, ton business, raconte-moi. Et en fait, de fil en aiguille, lui commençait à se poser des questions aussi. Il avait une idée sur les trucs des produits d'entretien, mais il savait pas exactement quoi précisément. Il avait déjà en tête ce business d'abonnement. Et puis, en fait, au début, ça s'est passé comme ça, en fait.
C'est génial.
Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, bah oui, mais alors, il y a un vrai truc à faire sur le plastique, c'est pas possible. Et on est rentré, je lui dis, mais oui, mais moi, et moi, je suis venue, quand je te dis, on vient chacun avec notre expertise. Moi, je lui dis, hyper intéressant, ce business d'abonnement que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Et qui, d'ailleurs, et pour être tout à fait honnête, au début, je me suis dit, ouais, c'est chaud, quand même, l'abonnement sur la lessive. Et moi, qui venais de la grande conso en supermarché, si tu veux, je me dis, ouais, c'est très original. mais c'est vrai, je me suis dit, bah oui, en fait, rationnellement, il y a de l'abonnement sur des tonnes de marchés.
Oui.
La croquette pour chien, pour chat, la brosse à dents, les protections périodiques, les compléments alimentaires. Il y avait des tonnes d'abonnements et je me dis, bah, pourquoi pas sur la lessive, alors qu'après tout, c'est un produit hyper récurrent, quoi.
Oui, carrément.
Vraiment, c'est à la fois un produit de récurrence et en plus un produit de première nécessité. Je veux dire, quand tu n'as plus de lessive chez toi, tu ressors pour en acheter, en fait.
Oui, c'est ça, c'est clair.
Hyper cohérent d'avoir un abonnement sur ce genre de produit. Mais donc voilà, du coup, lui, il vient avec l'abonnement. Moi, je dis, ok, mais moi, je fais des produits d'entretien depuis 20 ans, des écolos depuis un bout de temps. Et en fait, il y a un vrai truc à faire sur le plastique. C'est pas possible, quoi. Et les matières controversées, mais surtout sur le plastique. Et donc voilà, Ben, forcément, lui, l'abonnement, le digital e-commerce, ça lui parlait à mort. Et donc voilà, on a fait un gros meeting pot de tout ça. Et puis, ça a donné Spring, en fait.
Ouais, c'est super. Donc, en fait, c'est ça. C'est Le message, c'est d'en parler. Toi, t'as commencé à t'intéresser et en demandant juste à Philippe plus de conseils, bah, finalement, bah, c'est devenu ton associé, puis vous avez monté le truc et peut-être besoin de se rassurer aussi. Tu sais, je sais pas si c'est le cas, mais bon, Steve Jobs, il a peut-être galéré aussi, hein. Peut-être que lui aussi, il a peut-être dû aller avoir des associés. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on pourrait trouver l'histoire de Steve Jobs. J'avoue, je la connais pas très bien. Mais tu sais, dans le côté où on se dit, ouais, il faut forcément être ça pour être entrepreneur. Il y a peut-être d'autres qualités à avoir, comme tu disais, notamment la curiosité.
En vrai, en plus, sincèrement, je pense que t'as des tonnes d'entrepreneurs différents.
Bien sûr.
C'est l'être humain. Donc, bon.
Après, voilà.
Je pense qu'il n'y a pas un profil type. Il y a certainement des compétences en commun, mais je pense qu'il n'y a pas de profil type. Et puis surtout, en fait, moi, si je devais laisser un message, j'ai envie de me dire, mais surtout, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il y a un profil type ou qu'il faut rester dans une case en particulier. Parce que, encore une fois, mon expérience personnelle me fait dire le contraire. À un moment, je disais, c'est pas mon truc, je saurais jamais faire parce que j'ai pas d'idée. Et puis aujourd'hui, l'avenir nous dira si ce sera un succès retentissant. Mais pour l'instant, on est hyper content et ça marche très bien. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, pourtant, oui, je suis entrepreneur, tu vois. Donc, je crois que pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est de se mettre sur le chemin de ce dont tu as envie. Si tu as... En fait, je trouve que c'est hyper important d'être acteur de son destin tant que possible. Et plutôt que de fantasmer l'entrepreneuriat, ben en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai discuté avec quelqu'un que je connaissais qui était entrepreneur. Bon, et il se trouve que ça a tombé à un bon moment, mais en fait, ça aurait pu se passer différemment. Il m'avait d'ailleurs fait des intros auprès d'un fonds d'investissement. Donc, tu vois, et ça, ma route aurait pu être très différente. Bon, il se trouve que finalement, j'ai eu la chance de tomber au bon moment avec lui, mais pour moi, le learning, c'est, si je l'avais jamais appelé, est-ce qu'il aurait pensé à moi pour monter ce business?
Non, ouais, enfin, certainement que non, du coup.
Peut-être pas, j'en sais rien, en fait.
Oui. Alors, lui, il aurait une histoire différente, toi aussi, mais Spring serait certainement pas né comme ça, en tout cas.
Oui, ce serait un autre Spring. Et voilà, mais en fait, tu vois ce que je me dis, c'est, et après tout, si tu réfléchis, un jour j'ai discuté avec cette amie qui m'a dit arrête de vouloir absolument avoir une idée mais mets-toi en chemin pour en trouver une. L'idée elle va pas venir comme ça tout seul, discuter avec des gens, va avoir des conférences. Moi ça a débloqué une énorme porte mentalement. Je me suis dit ah ouais, en fait, bien sûr, il y a des manières de trouver des idées. Donc pour moi ça m'a débloqué énormément, quoi. Et puis parler avec des gens, échanger sur son projet, aussi parce que tout bêtement, plus tu parles avec du monde sur tes envies, ton réseau a aussi un réseau. Et puis qu'est-ce qui te dit qu'ils vont pas apprendre qu'il y a une opportunité dans quelque temps sur tel voilà, en fait, c'est la loi de l'attraction aussi, un peu, je crois.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est d'en parler. Et puis, en tout cas, bah, j'espère que la discussion que tu avais eue avec ton ami qui a débloqué des choses chez toi, j'espère que ça pourra le faire pour les personnes aussi qui nous écoutent et qui nous regardent, puisque nous sommes aussi en vidéo. Ce que j'aime bien aussi toujours savoir sur le podcast, parce que je suis un petit peu curieuse, c'est le nom de la marque. Ça vient d'où, le nom de Spring? Moi, j'adore.
Ah, trop bien, merci. Mais en fait, Spring, il y a plein de raisons qui nous ont amené à ce nom. Alors, au départ, on avait un brief business. On voulait un nom court, associé à la catégorie et qui soit internationalisable. Alors, court pour le SEO, en fait, hein, pour que le nom soit efficace sur Google, quoi. Facilement mémorisable. Pour que ce soit une marque dont tu te souviens, je veux dire, Häagen-Dazs au début, je pense, n'était pas une marque très facilement mémorisable.
Et pour l'écrire, laisse tomber, comme Volkswagen, quoi. Surtout quand t'es allemand.
Exactement. Donc en fait, voilà, nous on s'est dit, il faut que ce soit efficace pour le SEO, il faut que ce soit court pour que ce soit facilement mémorisable, et puis il faut que ce soit un nom internationalisable parce qu'on espère bien un jour lancer la marque à l'étranger. Donc ça voulait pas forcément dire de l'anglais. Mais ça voulait dire un mot qui puisse fonctionner dans plein de langues. Donc ça, c'était le brief hyper basique, efficace, business. Et puis de l'autre côté, on voulait évidemment un nom de marque qui soit évocateur de nos catégories de produits, donc les lessives et les produits d'entretien, et qui soit positif, sympathique, etc. Et donc en fait, on a trouvé nous-mêmes le nom Spring, parce qu'en fait, il y a plein de choses. D'abord, Spring, ça veut dire le printemps. Et sur nos catégories de produits, il y a un temps fort qui s'appelle le ménage de printemps. C'est une expression qu'on connaît tous. Et donc, en fait, même si tu ne vas pas faire ce chemin intellectuel en te disant spring, printemps, ménage de printemps, égale catégorie des produits qu'on vend, quoi. En fait, implicitement, ça te semble pas complètement saugrenu une marque qui s'appelle Spring et qui vend des produits d'entretien.
Ouais.
La deuxième chose, c'est qu'en fait, le printemps, ça aussi une connotation hyper positive. C'est le renouveau, c'est la nature qui prend le dessus, c'est les petits oiseaux qui chantent. Donc, il y a un côté très positif et donc très nature. Et pour une marque de produits d'entretien plus respectueux de l'environnement et de la santé, c'était très cohérent. Et puis enfin, le printemps, c'est aussi donc via la nature, c'est aussi les fleurs et les bons parfums du printemps. Or, sur les marchés des produits d'entretien, le parfum est hyper important. Sur la lessive, c'est presque la première chose qui va te faire choisir telle ou telle lessive. C'est les goûts et les couleurs, hein, mais en fait, tu vas te repérer en rayon à la couleur du packaging parce que ça va te dire implicitement le type de parfum qui est contenu dans cette lessive, en fait. Donc c'était hyper cohérent d'avoir ce mot, parce que tu vois, du coup, c'est hyper riche. Il coche toutes les cases à la fois business, pratico-pratique et catégoriel.
Ouais, très tout ce qui est technique pour le référencement, mais en même temps tout ce qui est identité de marque. Enfin, je veux dire, c'est vrai que moi, le côté, j'aime bien toujours faire cet exercice, soit à mes élèves ou soit quand je cherche des noms, me dire quand j'entends ce mot, ça m'évoque quoi. Et Spring, oui, ça m'évoque même sans aller au ménage au printemps, fraîcheur. Tu vois, fraîcheur, renouveau. Et pour moi, c'est ça, c'est de linge frais. Enfin, bon, personnellement, j'aime beaucoup. Alors après, je sais les goûts et les couleurs, chacun. Mais donc, c'est un choix qui a été quand même bien, bien réfléchi, en tout cas, qui cause.
C'est hyper important pour la marque.
Et oui. C'est quand même. Parce qu'on dit qu'on peut changer de nom, mais c'est pas évident. Enfin, là, après, voilà, c'est.
Alors moi, je crois pas qu'on puisse changer de nom parce que, enfin, c'est compliqué. Évidemment, tu peux changer de nom, mais le truc, c'est que quand même, quand tu lances ta marque, tu vas faire toute une direction artistique qui est liée à cette marque. Quand tu t'appelles Spring le printemps, bon, bah, comme tu l'as dit, ça t'évoque un certain type de visuel ou d'univers graphique. Quand tu t'appelles, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi, j'ai aluminium qui vient en tête, qui n'a aucun rapport. Mais de fait, tu vois, c'était dans un truc beaucoup plus tech, beaucoup plus froid. Et donc, de fait, quand tu as créé ta DA autour d'un nom de marque, et puis tout le travail que tu fais aussi de notoriété, changer de marque, franchement, c'est chaud, quoi. Hein, surtout sur des marques en lancement qui sont déjà pas très connues, hein, par définition, quoi. franchement, la lancer en se disant qu'on allait la changer, non, c'est, ça, c'est audacieux.
Non, c'est... Ouais. Non, et justement, c'est une super bonne transition pour la suite, parce que bah, donc, le but du podcast aussi, c'est de découvrir les, bah, justement les débuts d'une marque. Quand vous avez lancé, vous avez trouvé le nom, tu parlais de l'identité de la marque, de la direction artistique, etc. Bon, aujourd'hui, quand même, il faut le dire, c'est 100 000 clients, enfin, c'est plus de 100 000 clients en 3 ans. Donc, voilà, pour moi, c'est une marque aujourd'hui, on la connaît, qui a du succès. Donc, moi, j'aime toujours bien savoir qu'est-ce que vous avez mis en place, comment vous vous êtes pris. On en parlait tout à l'heure un peu en off. Je sais qu'il y a de la publicité, vous faites pas mal de publicité, mais comment vous vous êtes pris? Vous avez commencé par quoi en termes d'étapes?
Alors, bon, la première étape, en vrai, c'est le développement produit, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus long. Bon, là, on est dans le temps de l'industrie et que développer une formule... et un packaging associé, c'est très long, c'est entre 12 et 18 mois. Il y a des investissements industriels qui viennent rajouter encore 6, 9 mois. Et puis nous, on a réinventé en fait cette catégorie. Alors j'aime pas trop dire ce genre de truc parce que ça fait un peu pompeux, mais la vérité c'est qu'en fait on est la seule marque au monde avec une gamme qui est intégralement sans plastique à usage unique. Donc oui, on a quand même rebattu sérieusement les cartes de ces catégories, mais ça veut dire aussi que ça n'a pas été facile en termes de développement parce que évidemment l'industrie, nous on n'a pas d'unité de production, on travaille avec des industriels qui sont des sous-traitants pour différentes marques, donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver le partenaire qui va développer le produit avec toi. Moi je travaille avec des ingénieurs R&D indépendants, mais aussi avec les labos des fournisseurs, donc faut trouver quelqu'un qui va avoir envie de t'écouter en fait. Et ces industriels, ils livrent aussi des très grosses marques, très connues, et même des distributeurs. Donc, quand tu vas avoir le gars qui livre peut-être des marques de très connues de ton supermarché, et que tu lui dis, voilà, moi, je voudrais faire de la lessive dans une capsule ultra concentrée qui sera livrée par la boîte, dans la boîte aux lettres, dans une boîte en carton. Oui. Autant dire qu'en 2018-2019, le gars me regarde avec des yeux un peu tout ronds, quoi, parce qu'il se dit, voilà, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, quoi. Donc, bah, heureusement... ça faisait 20 ans que je travaillais sur ces marchés, donc j'ai eu la chance d'avoir déjà un réseau d'industriels qui font que tu viens avec un petit peu l'écoute quand même, parce qu'ils disent, non, mais quand même, ça fait 20 ans qu'elle travaille dans cette industrie, donc elle doit savoir un peu de quoi elle parle. Donc au moins, il y a une certaine écoute, mais je veux dire, si j'étais arrivée, tu vois, je sais pas, d'un marché complètement différent, je pense que j'aurais pas eu beaucoup, beaucoup de répondants. Donc en fait, il y a sur les étapes de création, il y a ce côté R&D, donc recherche et développement, qui est hyper lourd. On a donc inventé cette boîte en carton pour une lessive. Ça nous a pris plus de 100 prototypes et plus de 1 an, parce qu'en fait, elle est équipée d'un système de sécurité enfant. C'était là aussi, on l'a breveté, c'est une première mondiale. Et puis on a complètement repensé tous les produits d'entretien donc liquide, donc le gel WC, le liquide vaisselle, les sprays nettoyants, parce que ça, ce sont des produits, bah, en fait, que tu consommes quand même assez régulièrement, et quand il est fini, tu le jettes dans la poubelle pour acheter exactement le même. Ton gel WC, a priori, tu rachètes toujours le même, le liquide vaisselle, c'est pareil. Et ce produit, donc, et il est liquide parce qu'il est fait à 80 ou 90% à base d'eau. Donc en fait, on a fait beaucoup de R&D pour trouver une manière de ne vendre aux clients que la matière active, donc les 10% de matière active en gros qu'il y a dans ces produits-là. Et donc on a conçu ces produits sous forme de poudre en fait. Donc tu vas soit réutiliser un flacon que tu as chez toi, soit acheter notre flacon à nous. C'est un flacon durable. Tu verses la poudre, tu complètes avec l'eau du robinet, tu agites et là tu vas retrouver exactement le même produit que tu as l'habitude d'utiliser. Donc ton liquide vaisselle super dégraissant qui mousse très bien, qui a cette espèce de viscosité, pareil sur le gel WC et pareil sur les sprays donc qui sont liquides quoi. Et sauf que l'idée c'est que bah, ça vient dans un sachet en papier. Et donc ta recharge c'est voilà, c'est juste un petit sachet en papier qui du coup bah évidemment passe dans la forme de ta boîte aux lettres. Et quand tu as fini ton spray ou ton liquide vaisselle, bah tu rinces le flacon et rebelote, tu remets une recharge et de l'eau du robinet. Donc on n'a pas transporté d'eau, on ne t'a pas non plus vendu d'eau, hein, et on ne te vend pas un flacon jetable, mais qu'un petit sachet en papier, et le papier est très bien recyclable. Donc, tu vois, il y a un côté de R&D très fort, parce que notre volonté, c'était aussi, du coup, de limiter notre impact carbone. Donc, par conception, ces produits, les produits rechargeables dont je viens de te parler, ils permettent de réduire le bilan carbone de 92 à 96% selon les produits. Voilà. Ben oui, parce qu'en fait, on va comparer. C'est dommage, j'ai pas de format à te montrer là. Mais il faut imaginer ton ton liquide vaisselle dans un flacon normal que tu vas comparer à un petit sachet de papier, en fait, tout simplement.
Ouais, ouais, non, mais je vois à peu près, ouais.
Donc forcément, bah, tu as une logistique qui est hyper optimisée. Il y a une famille qui est excellente parce que le papier est super bien recyclé. On transporte pas d'eau et l'eau, c'est lourd, en fait. Donc à la fois, on a un camion qui est beaucoup plus rempli. Parce qu'un petit sachet de papier, bah, ça prend beaucoup moins de place qu'un flacon de liquide vaisselle.
Bien sûr.
Et en plus, il n'y a pas d'eau, donc c'est beaucoup moins lourd. Donc, proportionnellement, le camion est beaucoup mieux optimisé. Et donc, ça fait qu'on réduit de 92% le bilan carbone d'un liquide vaisselle, par exemple.
Ah oui. Attends, excuse-moi, je te coupe parce que justement, on n'avait pas parlé de ça. Là, tu me dis que tu es. Donc, la première, c'était le développement produit sur toute la partie R&D. Donc, au départ, vous avez fait la R&D que sur la lessive, ou dès le départ, vous étiez dit non, dans tous les cas, on va aller sur tous les produits d'entretien, et donc, vous avez pris ces 10-12 mois pour aussi faire tout ce qui est liquide vaisselle, etc.
Alors, en fait, c'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on savait qu'on lancerait au début que la lessive. En fait, au début, on devait lancer que de la lessive. Et puis, au fur et à mesure du développement, donc on avait décidé de faire deux parfums, comme ça, il y avait du choix pour nos clients. Et puis, en fait, au fur et à mesure des développements, moi, j'ai dit, mais en fait, on a exactement la même problématique sur les produits lave-vaisselle. C'est un marché de récurrence. Souvent, quand tu as un lave-linge, t'as souvent, enfin, le type de foyer qui nous consomme est souvent aussi équipé en lave-vaisselle. Si tu souscris à l'idée d'avoir une offre par abonnement qui vient dans ta boîte aux lettres, c'est sans engagement. Je l'ai pas précisé, mais c'est sans engagement. Donc, si ça te plaît pas, en deux clics, tu peux te résilier ton abonnement. Donc, c'est vraiment la flexibilité la plus totale. Donc il y a pas de raison, en fait, de pas faire un produit lave-vaisselle. C'est exactement les mêmes bénéfices pour le consommateur, etc. Donc en fait, on a lancé au départ deux lessives et un produit lave-vaisselle, mais on savait qu'on voulait aussi avoir un maximum de propositions sur les besoins de la maison, de l'entretien de la maison de manière générale. Donc on va pas démultiplier les produits parce qu'au bout d'un moment, t'as pas besoin de 25 références différentes pour nettoyer tes toilettes. Mais en revanche, bah, il y a besoin d'un produit pour les toilettes, un produit pour la vaisselle, un produit pour les surfaces, etc. Donc en fait, on savait que ce serait phasé dans le temps. Mais comme tu disais, comme le développement c'est très long, bah, même au moment où on a lancé la lessive et les tablettes lave-vaisselle, on était déjà quasiment prêt à lancer les autres produits, une partie des autres produits.
D'accord. Ok. D'accord. Donc du coup, la partie R&D, ça a été le première étape.
Première étape, et puis évidemment, bah, comme il y a des étapes qui sont très longues, nous on teste tous nos produits en laboratoire avant de les lancer. Et maintenant qu'on est lancé, qu'on a une communauté de clients, on fait même tester tous nos produits, on a une communauté de testeurs. Génial. Et donc ça, c'est la chance des marques digitales, c'est qu'on a un panel comme ça qui est à portée de clic, et donc on leur fait tester tous nos produits, et c'est souvent eux qui choisissent le parfum qu'on va lancer, ou la couleur, etc. Donc le mix produit, ce qu'on appelle le mix produit. Et donc au début, bah, c'était que les labos, puis maintenant c'est les labos plus nos clients. Donc souvent les tests labos, ça dure plusieurs semaines. Donc t'as des temps morts, en fait, dans le développement. Au bout d'un moment, quand j'ai fait une formule qu'elle est selon moi prête, hein, et que je l'envoie au labo pour la tester, si on l'envoie au labo pour la tester, c'est qu'on est quasi sûr qu'elle est très bien, parce qu'en fait ça coûte très cher, les tests labos, donc on n'envoie que des produits quand on est vraiment presque sûr de nous, ou on met plusieurs formules. Donc en fait, tu as des temps morts parfois de 2-3 mois où tu peux pas vraiment avancer. Donc le sujet le plus long, c'était le développement produit, parce que voilà, c'est un temps long, c'est le temps de l'industrie, mais c'était entrecoupé de tout le travail sur la marque, évidemment. Donc la marque, c'était le choix déjà du nom de marque, puisque comme on le disait tout à l'heure, évidemment, ton nom de marque évoque déjà un univers graphique. Et puis, il y a ce qu'on appelle le positionnement, c'est-à-dire qui je suis, à qui je parle, qu'est-ce que je raconte, c'est quoi mon point de différence et comment j'ai envie de le dire. Le ton de marque, est-ce que je suis une marque sérieuse, scientifique, sympathique, enfin, tu peux être scientifique et sympathique, tu vas me dire, mais en fait, voilà, est-ce que tu veux, quel type de marque tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de défendre? Et puis, tout ça, ça donne un brief que tu donnes pour définir une direction artistique. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants, évidemment, parce que le sujet, c'est quand même de faire une marque qui soit la plus sexy possible, enfin la plus sexy, la plus attirante possible. Là, c'est des choix. Alors là, pour le coup, c'est un peu des choix, hein, parce qu'il n'y a pas une règle de ce qui est une marque sympa ou pas sympa. En revanche, alors moi, j'ai Philippe, mon associé, est aussi marketeur. Et on était tout à fait alignés tous les deux sur le fait qu'il y avait. Alors je dis c'est important parce que en fait c'est confortable, parce que quand tu définis quand même un positionnement, t'es un peu seul au monde, hein, quand même. Parce que là, tu es sur ta feuille blanche, tu dis, ah, bah, tiens, on va faire une marque qui va être sympa, qui va être rigolote et qui va faire des petites blagues. Bon, moi, je trouve ça sympa, mais après tout, est-ce que ça va plaire aux consommateurs?
C'est ça, est-ce qu'il y a le marché derrière?
Ouais, évidemment, on avait quand même les exemples, Michel Augustin, Innocent, qui ont chacun à leur manière cassé un peu les codes de leur catégorie de produits. Donc, on n'a pas non plus complètement révolutionné ce genre de marketing. Mais quand même, tu vois, quand tu es sur le marché de produits d'entretien et que tu dis, bah, moi, je veux faire une marque qui soit un peu inspirée des codes des marques de beauté, avec une direction artistique beaucoup plus pure, beaucoup plus, plus premium, plus élégante, plus déco, et un ton de marque qui soit sympathique, en connivence, qui se permette des petites blagues. Si tu lis nos packs, tu vas trouver par-ci par-là une petite blague. Alors, c'est pas un one-man show, hein. C'est juste le sourire. Mais moi, je me dis, bah, c'est chouette si t'es une marque de lessive et que tu réussis à déclencher un clin d'œil, un sourire à ton client, quoi. Bon, franchement, ouais. Pour une marque de lessive, je trouve que c'est déjà une belle mission, en fait.
Ouais, ouais, carrément. Et puis, se souvient, enfin, moi, tu m'enlèveras pas que c'est justement tous ces petits détails-là qui font que on se souvient après de la marque, et même on a envie d'en parler, et on en parle comme ça en soirée, et puis c'est comme ça que, ah oui, tu sais cette marque. Et, enfin, moi, je.
Ben, moi, j'adorerais, tu vois, que mes clients se disent presque un peu, je suis cool parce que j'utilise Spring, quoi. Parce
oui,
que j'ai tout compris, okay. Et c'est la marque qui me permet d'utiliser des produits qui sont meilleurs pour ma santé, parce qu'ils sont sans matière controversée, donc je ne l'ai pas dit dans le détail, mais matière controversée, c'est les allergènes, les cancérogènes, les perturbateurs endocriniens, ça, c'est des trucs qui ne sont pas interdits sur les produits d'entretien, mais que nous, on interdit. Donc voilà, donc je fais du bien à ma santé, à ma famille, à mon bébé, je sais pas, je suis plus respectueux de l'environnement parce que je remets pas de plastique en circulation. Je sais pas, moi je me dis, bah, un foyer qui fait 30 kilos de plastique par an et qui tombe à zéro grâce à nous, enfin, sur la partie des produits d'entretien, donc il faudrait oui. prendre la quote-part dans les 30 kilos, mais je me dis, bah, c'est génial. Moi, franchement, je suis super contente. Je me dis, bah, c'est peut-être, on va pas résoudre le problème du climat tout seul grâce à de lessive, mais en même temps, on contribue. Et je me dis, bah, si je peux réduire le nombre de produits que tu vas mettre dans ta poubelle de tri, et bah, franchement, ça me rend fière, en fait.
Oui, bien sûr.
Une petite contribution, mais c'est mieux que rien, en fait.
Et que les personnes elles-mêmes en soient fières et qui disent, bah, grâce à Spring, exactement. Qu'il y a eu la conscience écologique derrière de ouais. ça. Et comme je te le disais en off, voilà, moi, j'ai une copine qui utilise justement Spring et elle est fière quand elle en parle. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu sens, parce qu'elle contribue, elle, à son empreinte écologique au niveau du monde entier, quoi. Et tu sens de la fierté derrière et je trouve que c'est très beau. Effectivement, vous avez une promesse.
Ah, franchement,
c'est pas une promesse pour le coup, parce que c'est réel ce que vous faites.
Ah, franchement, c'est le plus beau, sans angélisme, mais c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Parce que, en fait, tu vois, je crois qu'aussi qu'à un moment, quand tu lances ton business, alors évidemment, on lance notre business pour que ce soit un succès et aussi un succès économique, je veux dire, sans angélisme. Mais c'est dire que quand tu le fais, c'est une chance unique de lancer sa marque. Je veux dire, quand même, lancer sa marque, définir ce que tu as envie de défendre comme valeur et ce qui est important pour toi. Et te dire que tu peux, à ton échelle, faire un peu la différence. Je veux dire, mais c'est formidable, en fait.
C'est clair. Et que là, ça a été pris par plusieurs personnes. On le disait, il y a plus de 100 000 clients. Enfin, ouais. Tu vois, c'est pas... Parce que c'est bien de le faire, mais si derrière, il n'y a pas une demande, il n'y a pas un marché, c'est presque dommage.
Ah bah, là, c'est, voilà. Enfin, c'est quand même le point dommage. De départ. Hein. C'est qu'il faut lancer un business, il faut qu'il y ait une demande et que ça réponde à un problème. Quoi. Si ça ne remplit pas ces cases-là, c'est que c'est certainement pas la meilleure idée. Mais ouais, ouais. Me dire que tu vois, ton feedback de ton amie qui est notre cliente et qui
ça
est fière d'être... Bah, je suis trop contente parce que... Ouais. Parce que je me dis que quelque part, on a réussi peut-être à communiquer ou à véhiculer ce qui était important pour nous, quoi.
Bien sûr. Et je suis sûre que c'est pas la seule.
Bah,
viendrait nous dire. Hein.
C'est ce qu'ont l'air de nous dire nos clients, hein, bien sûr. Mais tu sais, c'est toujours pareil quand tu as des feedbacks comme ça qui te viennent par personne interposée, c'est encore plus chouette que. Voilà. Mais d'ailleurs, tu sais, on a un super bon bouche à oreille et on a d'ailleurs, je disais effectivement à juste titre qu'on a plus de 100 000 abonnements, mais c'est pas c'est aussi parce qu'on a une excellente notation sur les produits. On est noté 4,8 sur 5 en moyenne. En fait,
super.
On fait un gros travail. Je t'ai expliqué un peu comment on formulait les produits et l'attention qu'on met au niveau de qualité, la qualité des parfums. Je t'ai pas dit, mais sur cette lessive là, alors je vous montre là, c'est la lessive Airfray, c'est la dernière qu'on a lancée et qui est devenue notre best-seller, celle-là.
Super.
Airfray, on a fait plus de 30 essais de parfums.
Waouh, ah ouais.
Parce que en fait, ma liste négative qui est hyper restrictive là, qui a interdit voilà plein de matières premières, dont les allergènes notamment. Bah, les allergènes c'est super, mais c'est ce qui fait que le parfum sent super bon, super puissant, super frais, tout ça. Donc moi je donne le même brief à mes maisons de parfum. Donc je veux que ce soit aussi frais, aussi puissant machin, mais sans les matières premières qui en théorie leur permettent de le faire. Donc c'est un peu un casse-tête, mais on a la chance d'avoir une maison de parfum qui est géniale. Ils me suivent depuis longtemps, ils me suivaient déjà à l'époque sur ma marque précédente. Et en fait, ils ont accepté de faire tous ces... Je te dis, 30 essais, c'est quand même pas rien.
C'est ouf. Hein.
Ils ont vachement bien réussi puisque c'est le best-seller aujourd'hui.
Comme quoi, c'est possible. Quand on tombe sur les bonnes personnes. Hein.
Mais attends, en fait, ce que je me dis, sincèrement... un peu tout est possible, hein. Je veux dire, quand j'ai appelé un fournisseur la première fois pour dire qu'on voulait faire une lessive dans une boîte en carton, le mec m'a rayonné, hein. Quand j'ai appelé un designer pack pour dire, voilà, en fait, on voudrait faire un système de, en fait, pardon, sur les capsules lessives, il y a une réglementation qui nous impose d'avoir un système de sécurité enfant. Qui fait que pour ouvrir la boîte, il faut les deux mains en même temps, il faut qu'il y ait un peu de résistance. Enfin, il y a un certain nombre de contraintes. Et donc, moi, j'ai dit, je veux répliquer ces contraintes sur une boîte en carton. On m'a beaucoup dit c'est pas possible. Jusqu'à ce que je tombe sur un gars qui m'a dit essayons quoi. Voyons. On a fait plus de 100 prototypes, donc c'est de dire que c'était vraiment pas facile, mais c'est de constater qu'on y est arrivé puisqu'on a même breveté la boîte. Ce qu'on me dit c'est que souvent, ça aussi je pense que c'est un truc d'entrepreneur ou tu sais pas que tu vas pas il faut essayer et puis laisse les gens te dire que ça va pas être possible, mais toi ne pars pas du principe que c'est pas possible. T'as une bonne idée, essaie de la faire marcher en fait.
Ouais.
Et super. Puis peut-être qu'à un moment tu diras non, en fait c'était la fausse bonne idée, mais en l'occurrence,
moi tu le sauras.
Parfois ça marche, hein. Ça marche. Donc faut essayer.
La preuve. Bon alors du coup on revient. Tu étais sur l'ADA et après donc vous avez donc eu votre identité, enfin votre positionnement, l'ADA, l'identité de marque. Et après vous êtes passé en termes de promotion ou peut-être même le site. Enfin je sais pas.
Après une fois qu'on a planté un peu tout le positionnement, l'ADA, etc. On a travaillé. Ça c'était en parallèle avec un copywriter. Donc ces copywriters c'est des gens qui savent très bien manier les mots. Et qui traduisent en des belles phrases ce que toi tu mets dans un PowerPoint pas très beau. c'est eux qui nous ont fait les petites phrases de ton, les petites blagues qu'on va retrouver sur nos produits et qui vont avec le directeur artistique, la somme des deux ça va habiller la marque, en fait ça va donner vie à ta marque. Donc on a fait tout ça et puis après on a lancé sur les réseaux sociaux. Nous on est purement une marque de e-commerce, on est un pur produit. Alors on est ce qu'on appelle une
DNVB.
Voilà, une DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Et en fait, c'est des marques qui sont nées sur le web, donc souvent sur les réseaux sociaux, et qui vendent, on appelle ça aussi des direct to consumer, D2C. Et donc, on vend directement de nous aux consommateurs. Et ça, pour nous, le meilleur canal, c'est les réseaux sociaux, hein, Facebook, enfin Meta, qui nous permet vraiment de nous adresser directement à nos clients, quoi.
Donc aujourd'hui, donc Meta, c'est Facebook et Instagram hein, sur lesquels vous êtes. Et alors après, par contre, la vente se faisait, vous aviez un site e-commerce,
oui,
j'imagine
bien sûr.
Aussi.
Avec... Alors, en parallèle de tout ça, de tout ce qu'on s'est dit, on a développé aussi notre site e-commerce où on a conçu un système de vente un peu différent. Donc, puisque comme on vend de l'abonnement, ça ne fonctionne pas de la même manière qu'un e-commerce classique. Et en plus, on propose un pack d'essais. Donc en fait, tu commences par essayer la lessive pour 4,90€. D'ailleurs, je pourrais te donner un code promo pour tes auditeurs s'ils veulent essayer notre lessive gratuitement.
C'est gentil.
Je le donne tout de suite. C'est mon nom, donc Laure Favre, LAUFAV92. LAUFAV92.
Merci. Puis je le remettrai dans les notes de l'épisode avec le lien et tout ça. Il y a pas de souci.
Avec plaisir. Donc ça te permet d'avoir le pack d'essais gratuit. Et donc l'idée chez nous, c'est que tu rentres par le pack d'essai, tu essaies la lessive, et puis après, tu as tes livraisons programmées. Donc, le pack d'essai, il a 12 capsules, et les packs de livraison récurrente, ils en ont 42. Mais donc, évidemment, pour designer tout ça, il a fallu adapter, puisque c'est un système qui fonctionnait pas en tant que tel, enfin, qui n'existait pas en tant que tel. Et puis concevoir aussi un système aussi de contact consommateur qui soit simple pour leur rappeler aussi qu'ils vont recevoir leur livraison, parce que, en fonction de la taille de ton foyer, tu vas recevoir plus ou moins fréquemment ton pack de lessive. Si tu t'es abonné et que tu le reçois tous les 3 ou 4 mois, par exemple, tu peux peut-être oublier. Et donc, nous, en fait, 3 jours avant chaque expédition, on envoie un message, un mail au client pour dire « Tiens, Marie, dans 3 jours, tu vas recevoir ta prochaine boîte. » Et là, c'est le moment pour toi de changer de parfum si tu en as envie, de décaler si tu as encore du stock, d'arrêter si tu n'es pas satisfaite ou si tu n'as plus besoin. Voilà. Donc, l'idée, c'était de se dire jusqu'où on va pour que ce soit vraiment un service. C'est-à-dire, encore une fois, c'est sans engagement, c'est hyper flexible. Donc, il fallait pour qu'on puisse concevoir vraiment tout ce mode de communication et la conception du site pour que le client puisse facilement faire toutes les modifications dont il a envie.
Ouais, ok.
Donc ça, c'était en parallèle la création du site.
Ouais, un gros sujet quand même, parce que c'était pas avec un... Alors, je ne sais pas si vous êtes parti sur des solutions préfaites au départ, style PrestaShop, Shopify ou ce genre de choses, mais peut-être besoin de l'adapter à cette particularité de l'abonnement.
Ouais, c'est ça. En fait, on est sur Shopify avec Recharge pour gérer l'abonnement, mais quand même, il y a des choses qu'on a customisées pour que ce soit vraiment... Pour nous, c'est hyper important de se dire qu'on offre un service. Un service, ça ne doit pas être contraignant. Donc voilà, il fallait que ce soit vraiment bien intégré pour qu'on lève toutes les contraintes.
Et justement, quand vous vous êtes lancé, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'éducation aussi au grand public pour se dire « Ok, je vais avoir ma lessive par abonnement ». Parce qu'on connaissait peut-être le système d'abonnement sur d'autres produits, mais pas sur celui-là. Alors, vous avez pris comment sur les réseaux ?
Énorme. C'est un énorme sujet parce qu'en fait, l'abonnement, avec ce terme-là, c'est ce qu'on pense à Canal, à son téléphone, où il faut être vraiment à la date anniversaire pour résilier l'abonnement. Donc, on a tous eu des mauvaises expériences avec l'abonnement. Mais je l'utilise à tort ce mot parce qu'en fait, on parle plutôt de livraison programmée. Et donc, tu vois, justement, tu disais là sur notre lancement et l'éducation qu'on a faite, c'est qu'en fait, on fait attention à ne jamais parler d'abonnement. Sur nos communications, justement pour qu'on comprenne bien, pour qu'on se mette pas dans la case de ce service contraignant et qui va t'enfermer en fait. Voilà. Donc et puis surtout il faut expliquer quand même le concept de recevoir la lessive dans sa boîte aux lettres selon ton choix et puis dans une boîte, encore une fois, cette boîte hyper compacte qui rentre dans la forme de la boîte aux lettres. Donc la chance, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est quand même très visuel. Donc, t'as vite fait de pouvoir expliquer et comme je le disais, cette boîte qui rentre dans la boîte aux lettres, tu l'expliques. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être avoir ils visualisent peut-être plus difficilement ce que c'est. Pour les gens qui nous voient, t'as compris vite fait. Cette boîte, elle est designée pour rentrer parce qu'elle est très fine, donc pour rentrer dans la forme de la boîte aux lettres. Et puis on a conçu des capsules de lessive très concentrées pour qu'elle rentre dans cette petite boîte, quoi. Donc, avec les contenus qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer.
Oui, parce que quand tu le vois visuellement, ça devient clair assez facilement. Puis le côté livraison programmée, non pas abonnement.
Oui.
Enfin, voilà, tu l'as très bien expliqué. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Mais c'est vrai qu'il fallait... En fait, ma question, c'est est-ce que quand vous l'avez lancé, ça a mis un petit peu de temps pour prendre ou ça a pris assez rapidement?
Alors en fait, comme on disait tout à l'heure, là, on a lancé après le premier confinement, parce que le premier confinement nous a un petit peu bloqué, comme beaucoup. Alors ça aurait été idéal qu'on puisse lancer juste avant, mais bon, ça n'a pas été le cas, et ça nous a ralenti parce qu'évidemment, l'épidémie a fait que dans les usines il y a eu beaucoup de problèmes notamment, et donc on a été obligé de décaler le lancement. Mais en fait, on a profité de cette étape-là pour peaufiner le packaging, peaufiner le site et faire un pré-lancement. Et donc, pendant ces quelques mois de confinement, ou en attendant d'avoir la marchandise, en fait, on aurait été prêt à lancer au début de l'été. Mais bon, franchement, est-ce que tu as envie de recevoir ton pack de lessive quand tu pars en vacances? Justement, quand tu pars en vacances, c'était pas idéal. Donc, en fait, on a décidé de le lancer après l'été pour vraiment être dans les meilleures conditions. Et donc, on a profité de tout ce temps-là pour faire un pré-lancement qui nous a permis de collecter plus de 100 000 adresses et d'avoir tous ces contacts qui était prêt à activer dès que la marchandise était prête, en fait.
Donc, il y a eu aussi du mailing. Il y a eu réseaux sociaux et mailing, c'est ça ?
Alors, on n'a pas tant fait on a fait des campagnes de pré-lancement avec un système de points à gagner, etc., pour collecter, en fait, des adresses. Donc, ça, c'était surtout géré, en fait, via les réseaux sociaux avec des pubs sur Meta, en fait, hein. On avait un mini-site. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a fait avec Kickoff Labs à l'époque. Et donc, pendant toute cette période où, en fait, les gens pouvaient, cumuler des points en s'inscrivant, mettant leur adresse mail. Donc, nous, ce qui nous permettait de collecter des leads pour les recontacter quand on était prêt. Et après, il y avait tout un système de points. Donc, si tu suivais sur les réseaux sociaux, tu pouvais gagner des points supplémentaires. Si tu parrainais d'autres personnes, tu pouvais encore gagner des points. Et en fonction des points que tu avais gagnés, tu avais accès à différents types d'avantages. Et donc, c'est cette mécanique-là, donc gérée via des ads, en fait, sur les réseaux, qui nous a permis de constituer cette base d'adresses qu'on a pu exploiter tout de suite quand on a été prêt à livrer.
Ouais, non, c'est malin. Finalement, en fait, ce temps était finalement bénéfique de décalage, ouais, parce que vous avez même vu l'intérêt qu'il pouvait déjà y avoir par rapport à votre produit.
Oui, parce que ça nous a permis aussi de tester des pubs différentes. De toute façon, pendant quelques mois auparavant, on a testé des pubs différentes pour voir le message qui marchait le mieux. Donc voilà, on a bah, c'est le principe d'A-B test, hein, de toute façon, qu'on continue à faire même encore aujourd'hui. Donc ça, en fait, je crois qu'on aurait tous préféré lancer plus tôt, hein, je veux dire, pas non plus post-rationaliser en disant que c'était génial. Mais on a fait de cette péripétie un avantage en se disant, bah, ok, de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas lancer, on n'a pas de marchandises, on ne pouvait pas lancer, c'est tout, quoi. Donc, on en a profité pour peaufiner le site, pour A-B tester, pour se constituer cette base de données, et voilà, et du coup, préparer, en fait, le terrain pour le lancement, et ce qui fait que on a lancé exactement le 24 août 2020, et un mois après, on avait déjà livré tous les départements français. Wow. C'est-à-dire que en fait, on avait réussi à adresser des consommateurs partout en France. Et là où certains pourraient penser que Spring c'est une marque plutôt urbaine, en fait non, on est une marque qui parle à plein de gens différents. Parce que je prends toujours les mêmes exemples qui sont peut-être un peu caricaturaux, mais c'est une réalité. C'est tu peux être une personne âgée et en fait bah, porter ton bidon de 3 kilos de lessive, c'est lourd quoi. Donc, c'est quand même pas idéal. Donc, t'as les personnes âgées, pour certaines, qui vont être contentes de pas avoir ce problème de poids. Les urbains, même question. Hein, quand tu montes, t'habites au quatrième étage sans ascenseur, que tu rentres avec tes courses, ton pack d'eau, ton bidon de lessive, bon, c'est quand même un peu galère. Et t'as la mère de famille débordée, qui sait que, enfin, voilà, tout le monde a besoin de lessive. Donc, au moins, parmi sa liste de charges mentales, voilà, elle peut débrancher un sujet. J'aimerais te dire le père de famille, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même encore les femmes qui achètent ces produits-là, malheureusement. En majorité écrasante. Et puis t'as de l'autre côté du spectre, tu as aussi l'étudiant qui, même s'il a pas de lave-linge chez lui, il va à la laverie. Et cette petite boîte hyper compacte que tu peux ranger entre deux bouquins dans une étagère, mais en fait, quand t'habites dans une toute petite surface d'étudiant, mais c'est quand même pratique d'avoir quelque chose qui peut se glisser facilement. Donc c'est des exemples un peu outrés, évidemment, c'est un petit peu caricatural, mais la réalité, c'est qu'on a une offre qui, tu vois, qui, de ce point de vue-là, peut répondre à des profils différents. Et on a toujours un gros point commun, c'est qu'on a évidemment cette offre meilleure pour la santé, meilleure pour l'environnement, la réduction du bilan carbone, s'affranchir du plastique. Je veux dire, tous les jours, aux infos, tous les jours, on te parle de réchauffement climatique, on sort de la COP28, on a eu des inondations pas possibles ces derniers mois, et puis cet été prochain, on aura certainement encore une sécheresse. Je veux dire, tous ces trucs-là, ça fait qu'aujourd'hui, tous les jours, on te rappelle qu'il faut changer notre consommation quand même. Donc, on a aussi notre offre qui dit que, comme on disait tout à l'heure, à notre échelle, sur un petit aspect qui est celui de la lessive, voilà, tu peux réduire ton impact. Tout à l'heure, je te disais, c'est 92 à 96% sur les produits rechargeables. Sur la lessive, on réduit le bilan carbone de 74%.
Ouais, c'est énorme. Et puis, ouais. Tu sais, ça commence comme ça, c'est avec des petits pas, si on fait un peu tous. Hein. Bon, là, c'est un peu utopique, mais c'est vrai. En tout cas, ça peut faire que du bien à ce réchauffement qui est en train d'arriver.
Moi, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être un peu utopique, mais j'ai pas envie de me dire que je fais rien. Donc évidemment, il y a toujours, ça arrive, hein, des gens qui nous disent, on ne résout pas seul le problème du climat. Mais en revanche, on est actif, on joue un rôle à notre niveau, à notre échelle, exactement, pour limiter notre impact sur le climat. Ben moi, je trouve ça super.
Et surtout que derrière, si on commence à avoir cette démarche-là, la génération qui arrive, là, elle va peut-être être beaucoup plus prête à faire des efforts où là, on le sait, ça va être sur les grosses industries. C'est peut-être à ce moment-là, ça va pas bouger là tout de suite, en un an. Mais sur la durée, si on commence à inculquer ça au niveau des générations à venir, c'est là où ça fera la différence.
Ouais, complètement.
Donc bon, bref, là, on fait une petite digression. protection de notre chère planète.
Ouais, c'est ça. En vrai, c'est au cœur de notre promesse. Hein, nous, tout ce qu'on construit sur Spring, c'est pour limiter notre impact sur le climat, en fait.
Mais c'est très bien. Et je suis contente que tu sois là aussi parce que moi, toutes les personnes qui écoutent le podcast, elles ont cette sensibilité-là. Elles sont dans cette démarche-là aussi. Donc, je sais que ça parlera. Et c'est bien, effectivement, qu'on en parle. Je reviens sur votre communication. Donc, tu me disais aujourd'hui, surtout plutôt, alors par contre, quand tu parles des réseaux sociaux, c'est de la publicité. Vous, aujourd'hui, ouais. votre, communication, c'est donc Instagram, Facebook, vous avez votre site et derrière, c'est d'ailleurs votre source de revenus principale, c'est ça, c'est via la pub sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est ça. Alors en fait, nous, on est techniquement, on est une marque de e-commerce, on est un petit peu présent aussi en retail, donc on est chez Monoprix, chez Franprix, Carrefour Market et un peu à la grande épicerie de Paris aussi. Okay. Mais notre business model, c'est d'abord le e-commerce. Et en fait, on recrute nos clients par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc par des. Okay. Alors on a évidemment nos propres comptes Instagram et Facebook qu'on anime régulièrement. Et on a des jolies communautés. Là, je crois qu'on a 56 000 followers, tu vois, sur Instagram. Mm. Mais en fait, le gros de nos nouveaux clients viennent par l'intermédiaire de pubs qu'on fait sur les réseaux sociaux.
Et puis vos publicités ont dû certainement aussi faire venir ces personnes-là en tant qu'abonnés aujourd'hui. Organique entre guillemets sur vos réseaux parce qu'ils ont commencé à vous découvrir.
Mais alors tu vois, pas que. Et en fait, on se rend compte, on avait fait une petite étude à un moment sur justement les gens qui nous suivaient sur les réseaux et qui étaient nos abonnés. On avait vu qu'il y avait finalement pas mal de gens qui nous suivaient mais qui n'étaient pas encore abonnés à la marque, donc oui. clients.
D'accord.
Et en fait, on les avait du coup interrogés. Donc, moi, j'adore, je trouve que c'est génial en fait de faire des focus groupes via Instagram. Mais quelle chance! Donc, en fait, on fait une story, appel à témoins, qui est-ce qui veut nous parler? Et donc, moi, je fais régulièrement des focus groups de non-utilisateurs. Donc, des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, s'ils voient nos stories, c'est que c'est bien des gens qui interagissent beaucoup avec la marque parce qu'ils voient passer la story. Et donc, on a fait des groupes, alors avec des utilisateurs évidemment, mais aussi on en a fait même plus avec des non-utes. Parce que je me dis, moi, ça me fascine. Je me dis, j'adore ce qu'on fait, mais on reste une marque de lessive, tu vois. Et je me dis, donc toi, tu suis une marque de lessive, t'interagis avec la marque puisqu'ils voient nos stories, et pour autant, ils ne sont pas clients. Et donc, c'est vachement intéressant parce que moi, j'ai appris plein de trucs, ce qui nous a permis de rediriger aussi en termes de marketing et de communication ce qu'on faisait. Et notamment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des clients, il y avait besoin encore d'être rassurés, de mieux expliquer le produit. Certains n'avaient pas compris le principe du pack d'essai. Il y a des gens qui disent, oh, c'est clean, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, un produit clean. Donc, c'était qu'on n'expliquait peut-être pas suffisamment bien ce qu'on fait sur les matières controversées et de la manière dont on interdit. Et puis, la vérité, c'est qu'il y a aussi un peu de défiance. C'est-à-dire que tu as une marque qui est vendue sur Internet, tu as des gens qui ont toujours un peu peur de mettre leur carte bleue. Nous, on se présente en expliquant notre pédigré et notre volonté de faire un peu les choses mieux. Mais bon, il faut qu'ils nous croient.
Oui.
Donc, je sais que c'est de bonne volonté, c'est sincère.
Mais oui. Après, l'avantage, c'est que justement, aujourd'hui, tu as des formats, notamment, on t'en parlait, des stories sur Instagram qui permettent quand même, alors on peut être, toi, ils vont te voir dans les backstage, ils vont voir aussi, toi, je sais que tu es assez active, tu passes pas mal à la télé, j'ai vu là récemment, on te voit, enfin, on voit aussi qui sont les personnes qui ont créé ça, je pense que ça peut rassurer. Alors après, je dis pas que les personnes qu'on voit sur les réseaux sont toutes de très bon augure, entre guillemets, mais c'est vrai que, on voit la manière quand même dont la marque, elle s'exprime, comment elle communique. On a quand même la chance avec les réseaux sociaux, et là, pour le coup, Instagram, mais bon, les gens qui écoutent le podcast le savent, moi, je suis pas très... Forcément, je suis très Insta, donc je vais forcément défendre bien le réseau social. Mais tu vois, là où sur Facebook, on commence à avoir les stories, mais c'est peut-être un petit peu plus timide. Ouais. C'est vrai que sur Insta, ça nous permet d'avoir cette proximité. Il y a les messages, tu peux écrire aux gens. Il y a souvent des stories qui peuvent permettre, même s'il y aura toujours des personnes qui auront... Ça manquera pour les rassurer, mais il y aura quand même toujours cette proximité qui va être, je trouve, renforcée.
Ah mais, et puis, quand tu fais un focus group, en fait, quand tu sollicites des gens pour faire un focus group, donc un focus group, c'est, en fait, tu mets 5, 6, 7, alors là, comme on le fait en visio, on prend plutôt 4, 5 personnes max, parce que sinon, c'est difficile à animer. Et en fait, clairement, tu es en visio, puis tu leur poses des questions, tu les fais s'exprimer sur des trucs qui t'intéressent. Mais en fait, tu t'exposes. Moi, si je les réunis, c'est pas simplement pour répondre aux trucs qui m'intéressent. Donc quand ils me posent des questions, parfois ils vont te titiller un peu, mais nous on répond à tout. Et je crois qu'en fait la chance qu'on a, c'est que quand tu fais les choses avec sincérité. Alors évidemment c'est facile à dire, il faut nous faire confiance, mais en vrai quand t'as un client qui me dit mais ça veut dire quoi, mais moi je crois que c'est pas un problème tel truc, et que moi je défends pourquoi nous on considère que c'est un problème. Après t'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais en tout cas tu vois qu'il y a une forme de sincérité, il y a un raisonnement derrière, et on fait pas les choses gratos. C'est-à-dire, on n'a pas décidé que les matières controversées c'était un problème, comme ça, juste pour se faire plaisir. Et donc, en fait, je trouve que c'est un côté vachement rassurant d'avoir des gens face à toi qui, d'ailleurs, c'est pas que je trouve, c'est ce qu'ils me disent. écoute, systématiquement, à la fin du focus group, systématiquement, il y en a au moins un qui dit « Ah, bah, je croyais, en fait, que c'était un peu bullshit. »
Oui, j'allais te dire, c'est ça.
Je me demandais si c'était peut-être pas un peu bullshit, mais en fait, vous m'avez rassuré sur telle ou telle chose.
Ben oui. Quand t'as la cofondatrice qui passe du temps sur son temps perso à expliquer tout ça pour justement répondre et qui est ouverte, et comme tu dis, comme vous, vous savez ce que vous dites, vous avez des arguments, et voilà, c'est pas juste du greenwashing, juste pour dire tiens, je vais dire que c'est bon pour la planète, mais j'ai rien, j'ai pas de preuves, j'ai pas d'études, alors que toi t'arrives, t'as tout derrière, forcément. Enfin, je trouve que c'est, je l'ai noté, je trouve que c'est une très bonne idée, les focus group.
Et franchement, et moi j'adore, parce que je me dis, mais tu te rends compte, en fait, donc voilà, moi ça fait 20 ans que je fais du marketing, donc j'ai connu les focus group, c'est Mémé qui parle, mais j'ai connu les focus group où en fait, bah, il fallait prévoir 2 mois à l'avance, ça coûte 30 000 euros, t'as 2 mois pour avoir la restitution, donc pour avoir, c'est une inertie et un coût ahurissant. Là, quand on décide de faire un focus group, on fait une story, 24 ans, on dit est-ce que, qui est dispo mardi prochain à 18h. Les 5 premiers qui répondent, on en prend 7 parce qu'on sait toujours qu'il y en a, il y en a 2 ou 3 qui vont pas venir. Et puis on leur envoie une invitation et boum, et c'est tout en fait.
Ouais, c'est génial.
Ouais, ouais. Et de la même manière, c'est comme ça aussi qu'on gère nos tests produits. On a cette communauté de testeurs. Et voilà, donc tu vois, par exemple, l'an dernier, on a lancé une autre marque qui s'appelle Body qui fait des cosmétiques solides. Et dans Body, on a dans la gamme, on a donc des savons nettoyant visage et gel douche. Et on a un produit qui est 2 en 1 pour les enfants, en fait, corps et cheveux. Et donc, on voulait le faire tester à des gens qui ont des enfants. Or, moi, mes clients, je les flique pas, donc je ne sais pas s'ils ont des enfants ou pas. Bah, donc, en story, coucou mes testeurs, je cherche des testeurs qui ont des enfants qui veulent bien tester mon produit. Est-ce que vous avez envie ou pas? Ben voilà, hop, et puis on a leur adresse et c'est fait, quoi. Donc, ça, c'est une richesse extraordinaire. Quand je positionne un produit, si je me pose des questions, ben je peux même envoyer à toute ma base client, à une partie, si je veux contacter mes clients de mon liquide vaisselle uniquement, si je me pose une question. Par exemple, quand on a eu, à un moment, on avait eu des questions de qualité sur une formule, c'était au tout début, mais en fait, il y a quelques questions. On n'avait pas eu de gros problèmes, mais il y a quelques personnes qui s'étaient plaintes d'un truc qui me titillait. Et ben, du coup, je les ai recontactées, je leur ai fait tester notre formule, mais aux gens précisément qui s'étaient plaintes. C'est une richesse incroyable de digital.
Ah oui, oui. C'est digital super, sur ça, ouais.
C'est super efficace. Et donc, bah, Instagram peut être utilisé de la même manière, en fait.
Ouais, c'est chouette. Merci pour ce partage, parce que ça rejoint un petit peu ce que je conseille tout le temps à l'audience, aux abonnés, à mes abonnés. C'est il ne faut vraiment pas hésiter à impliquer directement les consommateurs dans le produit, pas être de détails de tout dans la construction, mais tu vois, sur les odeurs, sur ce qu'ils préfèrent, s'il y a quelque chose qui va pas, prendre ce temps-là, ça a un impact derrière qui est...
Mais pour moi, c'est un double bénéfice, parce que en fait, pour les clients, ils adorent tester, mais nous aussi, puis je trouve que c'est valorisant, vrai. Moi, ça me fait plaisir quand on me demande mon avis, en fait, c'est l'humain, quoi, ça fait plaisir de se sentir important pour quelqu'un, donc ils adorent tester. Et puis, je peux te dire que parfois, ils sont costauds. Hein. Ils y vont pas de main morte sur les feedbacks. Quand ils sont pas d'accord, ils le disent. Donc, c'est génial parce qu'en fait, ils testent. Ils nous disent ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, etc. Et de l'autre côté, c'est win-win. Hein, parce que moi, ça, je m'assure de mettre sur le marché un produit qui va plus plaire, qui va plaire, qui va être efficace.
Et puis, qui va être de plus en plus de qualité, de plus en plus efficace et qui répond en tout point à ce que les gens veulent.
Donc, en fait, je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Voilà.
Je suis d'accord.
Tout simplement.
Ouais, carrément. Donc, je te propose qu'on avance. Pour résumer, en termes de communication, pour le lancement, vous avez donc créé une direction artistique par rapport à votre positionnement. Vous avez fait travailler un copywriter. Vous avez après lancé le site internet et tout, principalement vous, de la publicité sur les réseaux sociaux. Hein, c'est vraiment là-dessus que vous êtes concentré. Et aujourd'hui, 3 ans après, ça reste aussi toujours, c'est toujours comme ça que vous communiquez sur les réseaux aussi via de la publicité.
Okay. Exactement, ouais.
Et ça a été quoi, selon toi, pour vous, les plus gros challenges en termes de communication au lancement de la marque, voire même jusqu'à présent peut-être?
Ouais, jusqu'à présent. Ouais, en fait, oui, on aura toujours un peu les mêmes challenges. Le premier, c'est quand même d'émerger. On est dans un environnement, les produits d'entretien, c'est un très gros marché, il y a des tonnes de marques qui martèlent le même discours depuis 10, 30, 50 ans. Donc, tu as un vrai sujet d'émergence. Quand tu vois, t'es une marque nouvelle et qui arrive avec une proposition qui est si différente, il faut faire ton trou, en fait. Donc, ça veut dire avoir le bon message, peut-être visuellement apporter La direction artistique, pour moi, est hyper importante parce que, encore une fois, tu vois, moi, je viens d'un marketing de grande conso où, en fait, ton premier média, c'est le rayon du supermarché. Donc, faut jouer des épaules pour crier plus fort que son voisin pour gagner la préférence. Donc, c'est des packs de plus en plus gros avec des couleurs criardes, tout ça. Et là, à contrario, sur le digital, tu vends un visuel avant un claim, donc avant une revendication marketing. Tu vends d'abord un visuel qui va te donner envie de t'arrêter, en fait. Du coup, ça veut dire que tes drivers sont un peu différents sur la manière de concevoir la marque. Et l'esthétique est, je pense, super importante. Donc, je pense que le plus gros challenge, c'est cette émergence, gagner en notoriété, et t'as quand même énormément de bruit sur ces catégories, et du coup, faut faire son trou, quoi. Puis en plus, t'as aussi un marché qui est souvent un marché de prescription, où souvent la lessive que tu utilises, c'est celle que utilisait ta maman, et donc tu es venu un peu de, on se passe le secret de mère en fille, mais voilà. Donc, il faut un peu se battre contre tout ça. Et puis, je dirais, je pense qu'il y a un autre sujet qui est quand même super complexe. C'est que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, je crois qu'on a une marque qui est très riche parce qu'elle dit nous, on veut dire plein de choses. On veut dire meilleur pour la santé, on veut dire meilleur pour l'environnement parce qu'on a la seule marque qui est sans plastique à usage unique. Mais en même temps, je vais expliquer mon concept de livraison programmée dans la boîte aux lettres et de flexibilité. Et aussi, je veux rassurer sur le fait que je fais pareil que les autres en mieux, selon moi. Donc, je suis aussi efficace, je suis au même prix, je sens super bon. Enfin, mes produits sentent super bon. Mais avec cette offre qui est super riche. Et ça veut dire que il faut prioriser, il faut hiérarchiser, puis aussi, parfois, il faut faire des choix. Donc, je pense que, franchement, on est encore en train de se demander parfois... Est-ce qu'on peut se permettre de se passer de parler d'efficacité sur un marché qui est par essence un marché d'efficacité? T'es une marque nouvelle, donc pour certains c'est rassurant, t'es nouveau donc c'est sérieux. Pour d'autres, on dit c'est nouveau, c'est pas un tel ou un tel, donc est-ce que ça va vraiment laver? Voilà. Donc en fait ça c'est sur la communication. Et puis donc ça c'est sur la communication, puis dans un message qui est très court. Donc en fait, tu vas avoir quelqu'un qui va être exposé à ta pub pendant 5, 10, 15 secondes. 15 secondes, c'est énorme. Il faut qu'il ait envie de s'arrêter, d'écouter ce qu'on lui raconte. Donc voilà, du coup, nous, on teste plein de choses différentes, plein de types de contenus différents. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros sujet.
Ouais, je comprends. C'est intéressant, le fait qu'il y ait tous ces messages-là, c'est comment lequel mettre d'abord en avant, comment construire peut-être, si c'est des pubs vidéo, l'avantage c'est que vous pouvez peut-être dire plus de choses, même si 15 secondes c'est long, voir quel hook vous allez prendre et comment vous allez l'amener petit à petit.
C'est tout ça.
J'imagine.
Ouais, c'est exactement ça. Et donc sur la variété de contenu qu'on peut faire, potentiellement on va concevoir un message, mais qui sera monté dans des ordres différents pour rentrer une fois par l'efficacité, une fois par le plastique ou l'absence de plastique, une fois par l'innocuité. Voilà. Mais c'est le hook, comme tu dis, c'est la phrase qu'on va mettre en avant ou le visuel qu'on va mettre en avant au début pour t'accrocher et puis te donner envie d'aller au bout du message. Ouais. Et ça suppose de concevoir... Mais tu vois, quand tu fais une pub télé, tu fais une pub télé, t'en fais pas 25.
Non.
T'as un message, il est organisé comme ça et basta, tu vois.
Ouais.
Là, c'est l'opposé. C'est qu'en fait, justement, nous, on peut avoir sur un contenu, on peut faire 4, 5, 10 montages différents, en fait.
Ouais, l'avantage, et puis c'est que t'as des métriques rapidement. Enfin, si la télé, si t'as les budgets, tu peux t'amuser à faire plusieurs pubs de messages différents. Mais on est d'accord, c'est pas du tout les métriques, tu les as pas si rapidement. Les coûts, on n'en parle même pas.
Mais donc, disons on peut pas comparer la télé et les réseaux sociaux. C'est pas le même objectif, en fait. Mais effectivement. De toute façon, il y a un juge de paix qui s'appelle le budget qui décide un peu pour toi.
Peut-être un jour, parce que bon, pour le coup,
On a fait de la pub télé.
Oh,
on a fait deux fois deux petites vagues de pub télé qui nous ont permis vraiment de gagner en notoriété, parce que du coup, on avait mesuré avant, après, pour voir ce que ça nous permettait d'aller chercher. Donc c'est sûr qu'en termes de notoriété, ça nous a bien aidé. Le ROI d'une pub télé versus le ROI d'une pub méta est incomparable, évidemment.
C'est sûr. Ça, c'est l'avantage du digital et des réseaux sociaux. Donc, ouais. Après, je suis une convaincue.
Oui, c'est ça.
Bon, on arrive pas bientôt presque à la fin. J'aime bien finir avec cette dernière phrase. Alors, on en a un petit peu parlé en début d'épisode. Selon toi, ça serait quoi les trois qualités, si on peut en mettre trois, les trois qualités pour devenir dirigeante d'une marque? un peu comme vous?
Je pense qu'il y a quelque chose autour de l'audace, mais
j'aime.
J'ai envie de dire, c'est plein de choses, l'audace, parce qu'il faut un petit peu de confiance en soi, sans un excès de, voilà, mais avoir un peu confiance en soi, il faut aimer un peu le challenge quand même, se dire que tu vois un truc, il faut s'écouter. Ah oui, pardon. Moi, je trouve qu'il y a un learning qui est pour moi, que j'ai 45 ans, donc je commence à, tu vois, avoir une petite expérience. Mais non, en fait, je me dis, avec le temps, je crois qu'il faut se fier à son instinct. Moi, je crois que ton intuition, elle a vachement de valeur. Et que le temps te montre que effectivement, tu vois, par exemple, c'est déjà certainement arrivé d'avoir un mauvais feeling sur une personne, par exemple, ou sur une situation. Bah, franchement, prenez le temps de réfléchir. Combien de fois, posteriori, vous vous êtes dit, ah, non, en fait, je m'étais complètement trompée. Franchement, certainement de temps en temps, hein. Mais je crois qu'en fait, la réalité, c'est que l'écrasante majorité du temps, c'est qu'en fait, ton intuition, elle est hyper juste. Et donc, je pense que ça, faut le garder en tête sur l'entrepreneuriat. C'est que si tu as un feeling qui est un truc qui peut bien marcher, eh ben, suis ton idée. Vas-y, vois comment ça peut fonctionner. Ne te dis pas que c'est impossible, sinon on n'aurait jamais fait une lessive dans une boîte en carton. On n'aurait jamais fait un abonnement de lessive. Et voilà. Donc, il faut avoir un peu de confiance en soi. Et puis ça, je pense que c'est super important. Donc ça, c'est l'audace un peu, je dirais, de manière générale. Mais du coup, j'associerais ça volontiers avec de l'humilité. Parce que on est quand même vachement plus intelligent à plusieurs, qu'il y a quand même sur plein de sujets des gens qui sont beaucoup plus compétents que toi sur telle ou telle dynamique. Alors voilà, moi sur le développement produit, je sais très bien faire, sur le marketing des marques, c'est mon métier. Voilà, développer un site internet, j'en ai pas la moindre idée, je sais pas comment on fait. Voilà, donc je trouve que parfois il faut avoir l'honnêteté de s'avouer qu'on n'est pas toujours le meilleur, et que aussi, bah parfois faut savoir reconnaître quand on s'est trompé. Se dire bon bah ok, ne pas s'entêter en fait. Tu crois que t'as une super idée mais que ça marche pas, bon bah peut-être qu'en fait c'est que le marché est pas prêt, que ça va venir, mais peut-être qu'aussi c'était pas la si bonne idée que ça en fait. Peut-être qu'il faut pivoter, Et ça souvent c'est ce que je disais tout à l'heure sur les entrepreneurs qui sont pas tous des génies. Non, mais en revanche je pense qu'ils ont tous une qualité, c'est certainement de savoir se remettre en question et de se dire non mais là c'est pas la bonne voie, il faut peut-être modifier un petit peu. Donc ça je pense que c'est hyper important. Parce que du coup, ça fait un bon équilibre. Ce qui fait que ton audace, ta confiance en toi, elle ne devient pas arrogante, en fait.
Tout à fait.
Je pense que ça, c'est important. Et puis, peut-être aussi de l'endurance, hein, la résilience. Parce que la vérité, c'est que tu vas aussi beaucoup refaire les mêmes choses. Parce que du coup, on itère beaucoup. Il y a un truc qu'on aime bien faire en startup, c'est le principe du MVP, donc Minimum Viable Product. C'est-à-dire, tu n'attends pas que ce soit parfait pour te lancer. Parce que du coup, si t'attends que ce soit parfait, t'as peut-être quelqu'un qui va le faire avant toi, t'auras perdu ton avance. Mais en revanche, quand il est suffisamment bon, c'est important quand même, tu vas pas le lancer n'importe quoi, mais quand il est suffisamment bon, alors faut y aller. Et là, tu fais appel à ton audace et ton humilité, mais tu vas observer, est-ce que c'est bon, je corrige, je redirige, enfin. Mais du coup, ça veut dire que tu vas peut-être avoir l'impression de refaire 20 fois la même chose.
Et oui.
Bah ouais, mais en vrai.
Mais toujours. Ouais. Avec un petit truc en plus.
Ah bah, exactement.
Tu vas te l'amener.
Exactement.
Ah, j'adore. Merci beaucoup, Laure. C'est trois beaux ingrédients, je trouve. L'audace, l'humilité et l'endurance. J'aime beaucoup et j'espère que, voilà, c'est un peu... J'aime bien finir les épisodes avant le jeu de la fin. Ne quittez pas, il y a le jeu de la fin qui va arriver. Mais j'aime toujours finir les épisodes avec un peu de motivation pour les personnes qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Avant qu'on passe justement au fameux jeu de la fin, alors est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver tes produits et si on a envie de venir papoter avec toi, où c'est que tu es plutôt disponible?
Avec plaisir. Alors d'abord, mes produits sont sur whispring.com, donc WESPRING.com. Et puis donc, je te disais un peu chez Monoprix, Carrefour Market, Franprix et la Grande Épicerie de Paris. Et si on veut papoter, franchement avec plaisir, parce que comme vous l'avez compris, pour moi c'est quelque chose qui a été déterminant dans mon parcours en fait, d'avoir des gens qui me disent que c'est possible en fait. Et donc je serais ravie de le faire. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, mon profil Laure Favre.
Ouais, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme ça ils auront qu'à cliquer et à venir te faire un petit coucou. Et donc, je te propose qu'on passe au jeu de la fin. Donc, les règles, c'est... je vais avoir différents sujets où je vais te proposer à chaque fois deux options. Puis, je mets un petit minuteur d'une minute. Et il n'y a pas de concours, il n'y a pas de règles. Je ne sais pas lequel des invités a le plus répondu, c'est histoire, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur les personnes qui viennent à mon micro de manière originale. Est-ce que c'est bon pour toi ?
Allez, avec plaisir.
C'est parti, je lance le chrono. Crêpe ou gaufre ?
Ah, crêpe.
Oh, tu vois ? Couche tôt ou couche tard ?
Ah, couche tard.
Soirée jeu ou soirée karaoké ?
Jeu.
Instagram ou LinkedIn ?
Instagram, mais direct.
Paris ou New York ?
À Paris, j'adore Paris.
Mer ou montagne ?
Mer.
En termes de série, Friends ou How I Met Your Mother ?
How I Met Your Mother.
Ok. Alors, tu vois, en plus, j'apprends plein de petites choses. Si tu continues. Tu vois. Chat ou chien ?
Chien, mais 200% chien.
Ok. Bon, celui-là, c'est mon préféré, je suis obligée. Chocolatine ou pain au chocolat ?
Pain au chocolat.
Merci. Disney Plus ou Netflix ?
Netflix.
Théâtre ou cinéma ?
Théâtre.
Musique pop ou classique ?
Ouais, pop.
Arriver en retard ou en avance ?
À l'heure.
Ah, bonne réponse, c'est fini. J'adore. T'as eu des réponses très franches, des autres un petit peu plus difficiles quand même.
Ouais, c'est pas toujours si tranché, hein, c'est vrai.
Et ouais, c'est ça qui est bien aussi. Ça permet de voir aussi les points communs. Donc, notamment sur le pain au chocolat, c'est mon petit jeu à chaque fois.
Puisque, c'est ça.
Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de l'épisode pour le temps que tu nous as accordé, pour tout ce que tu nous as livré. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, je vais retrouver mes auditeurs pour la conclusion. Mais si tu as un petit mot pour la fin, ce sera avec plaisir.
Vraiment, d'abord, merci beaucoup, Marie, parce que moi, j'aime beaucoup cet exercice du podcast. Je trouve que ça amène toujours des discussions vachement intéressantes. Puis c'est voilà, très spontané, donc je trouve ça très agréable. Et je l'ai dit 20 fois, mais je l'aurais dit, je pense qu'il faut oser, il faut se lancer. Je pense que c'est le plus important. Et puis s'entourer, discuter. Il y a 1000 personnes autour de vous. Vous trouverez toujours quelqu'un via votre réseau qui a une compétence dans un sujet qui vous intéresse. Si c'est pas directement dans votre réseau, c'est quelqu'un de votre réseau qui connaît quelqu'un. Toujours, en fait, toujours. Donc, ne vous bridez pas et puis essayez de, quand vous vous êtes posé la question, allez vous exposer à d'autres personnes parce que je pense que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup avancer.
Ouais, puis ça fait construire aussi un peu son discours. Enfin, c'est tout est. On va pas réouvrir l'épisode. Merci beaucoup. Et puis, eh bien, écoute, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite.
Merci. Salut. Marie, à bientôt.
À bientôt. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Beaucoup de choses ont été abordées, mais je retiens deux choses qui ont rythmé tous les partages de Laure et nos échanges. Premièrement, si vous hésitez à lancer votre marque ou que vous souhaitez lui donner un nouveau tournant, mais que vous ne vous en sentez pas capable, faites appel à votre réseau. Parlez-en autour de vous. Vous trouverez une rencontre qui saura vous conseiller une autre rencontre et de fil en aiguille, vous arriverez à trouver le ou les profils qui pourront vous débloquer ou vous aider dans le développement de votre entreprise. Et deuxièmement, n'oubliez pas que tout est possible, que tout ne se fait pas forcément du premier coup, qu'il peut y avoir des ajustements à faire, mais qu'avec de la détermination, de l'endurance, comme l'a dit Laure, vous pouvez arriver à réaliser vos projets. Voilà, je termine cet épisode sur une note motivante et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à lui laisser un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon quand vous m'écoutez et je vous dis à très vite. Salut !